mardi.
Ah, est-ce qu'on est gâté côté météo? La semaine passée, il pleuvait à boire debout, comme disait la grand-mère. Aujourd'hui, c'est plein soleil, on est gâté. Quelques nuages dans le ciel de Québec, mais rien pour écrire à ta maman, Pascal, pour te plaindre de ça.
Ah non, j'espère qu'elle est au camping, puis elle en profite, ma mère.
En soleil, en gougoune?
Ben, tu sais, genre de personne qui s'en va dans les campings où tout le monde se connaît à longueur d'été, là.
Elle se met encore de l'huile pour bronzer?
Et non, le cancer de la peau, la gang, faites-moi pas ça.
Fait que c'est de la 50, elle met de la 50.
S'il vous plaît.
Maximum de 27 pour aujourd'hui, indice humidex possible. 31 comme température ressentie, c'est ce qu'on nous mentionne. Demain, jeudi, des nuages en matinée, peut-être des averses en après-midi, même risque d'orage, maximum de 26 pour demain. Vendredi, ce sera nuageux avec 70% de probabilité d'averse, maximum de 21. Vous avez des choses à nous dire? Il se passe quoi que ce soit sur la route, merci d'être nos yeux, nos oreilles. C'est le 418-971-1021, c'est par texto. Plein de choses se passent dans l'actualité. Entre autres, en ce qui a trait au fiasco Sac-Clic, ça n'a pas fini de faire jaser. Le PDG, Éric Ducharme, le Big Boss qui vient d'être remercié ce matin.
Ben, tu l'as dit, c'est la nouvelle. Il a été remercié. En perte de confiance, c'est le gouvernement Legault qui a décidé de prendre action là-dedans. Et on a dit bye-bye, Monsieur Ducharme. Il y a un peu moins de charme aujourd'hui. Quand on regarde les photos aussi publiées par les journalistes, on voit qu'ils ont choisi celle pour peut-être faire jaser. Mais chose certaine, c'est ce qui est partout dans notre actualité en ce moment. On ne va pas attendre le rapport de la commission Galland pour avoir des actions. C'est ce qu'on a dit du côté du gouvernement Legault. Un peu, comment... Ça se demandait si c'est à caractère électoraliste, en fait, ce congédiement-là. Pas parce qu'il n'était pas mérité, de ce qu'on comprend, mais plus parce que la CAQ n'a pas été connue pour avoir des actions du genre « on met quelqu'un dehors dans les derniers mois, les dernières années, quand on avait besoin d'imputabilité au sein de certaines organisations gouvernementales ». Ceci est mon commentaire et on va suivre la commission, assurément, pendant le reste des semaines qui suivront. Mark Carney fait l'actualité aussi. Alors, notre cher premier ministre canadien qui a ordonné la révision de toutes les réglementations gouvernementales. Donc ça, c'est une mise en place de révision interministérielle. Je vous le résume, je vous le mâche, c'est pour tout ce qui est réglementation à compter d'aujourd'hui. Il y a une mesure qui est promise pour la campagne électorale. On dit qu'il est temps de rendre le gouvernement plus efficient, de rendre les processus plus efficaces, de catalyser davantage les capitaux privés pour qu'on puisse bâtir l'économie la plus puissante du G7. C'est pas rien ce que dit le premier ministre par voie de communiqué. Est-ce que c'est faisable? On verra, mais chose certaine, l'économie canadienne est vraiment au centre de sa politique actuellement. En rafale, sinon, ce que je peux nommer grève au RTC, reprise des négociations, oui, mais pas de retour au travail à court terme. C'est ce qu'on a appris dans les médias aussi au courant des dernières heures. La Russie a lancé sa plus grande attaque de drones et de missiles contre l'Ukraine au cours de la nuit dernière. Et dans le monde du sport, on en parlera plus tard avec Coach Gilbert, en F1, ce qui retentit dans le monde de ce palmarès de course automobile, c'est Christian Horner. Il a été renvoyé après 20 ans à la tête de l'écurie Red Bull. C'est fini l'ère Horner. C'en est un qui a monté énormément cette écurie-là de F1. Il est en poste depuis 2005. Il a été démis de ses fonctions aujourd'hui sur un fond de résultats un peu décevant, mais surtout des rumeurs de départ du quadruple champion du monde en titre néerlandais, Max Verstappen. Et il y a peut-être d'autres choses en dessous de tout ça, mais ça semble brasser en F1.
D'où vient le mot Québec-citant, Pascal?
Qui a inventé ça en premier lieu?
Qui aurait inventé ça en premier lieu, le fameux mot Québec-citant?
Je donne ma langue au chat.
Ce serait des camionneurs. Il y a de ça plusieurs années. Et la raison pour laquelle ils appelaient le Québec-citant, c'est en raison de l'état de nos routes. Ce serait v'là 6 ans. J'ai l'impression que Québec-citant, je l'entends depuis plus longtemps que ça. Mais ce qu'on nous donne comme référence, ça ferait à peu près 6 ans que les camionneurs appellent les routes du Québec, ou le Québec plutôt, comme étant le Québec-citant. Et année après année, on constate qu'il y a de plus en plus de nids de poules. Toi et moi, on en jasait sur Laurentienne, quand on s'en va vers le nord. Pascal, il y a des roulières, là. Quand il pleut, c'est juste hallucinant. T'as l'impression d'être au village des sports en triple. Tu sais, tu sais pas trop vers quel bord de la glissade tu vas aller, là, mais tu sais que tu vas y aller. C'est terrible. Puis, on a trouvé quelqu'un qui a accordé une entrevue à Francis Alain dans le Journal de Québec, qui est responsable du Bitume. Ben, c'est pas lui qui est responsable des nids de poules, bien entendu, mais c'est le président de Bitume Québec. Son nom, c'est Serge Lefebvre. Tellement content de lui jaser. Monsieur Lefebvre, bonjour!
Bonjour à vous deux.
Ah, que vous devez vous faire achaler tout le temps sur des questions d'asphalte, M. Lefebvre. Comment ça qu'ici, au Québec, c'est comme ça, l'état de nos routes?
Ben, il y a plusieurs facteurs, c'est clair. Puis oui, effectivement, comme on dit au party de Noël, c'est la question que le beau-frère te demande. Le beau-frère fatigant, mais regardez, il y a plusieurs facteurs qui mais la cause principale, c'est clair que c'est le manque d'investissement. On va se le dire, c'est le déficit de maintien d'actifs. Depuis des années, continue à grandir. Ça, le déficit de maintien d'actifs, c'est, si on veut, la valeur de ce que ça coûterait pour ramener les routes en état acceptable puis satisfaisante. Là, présentement, dans l'évaluation qui est faite par la vérificatrice générale, et aussi un groupe d'experts indépendants, c'est que il y a la moitié des routes au Québec qui sont en mauvaise ou en très mauvais état. Puis ce qui est inquiétant, c'est que la portion mauvais état a tendance à s'en aller plus vers le très mauvais état. Quand on arrive en très mauvais état, ça veut dire qu'on doit faire une reconstruction. Donc, le coût de le DGMA va augmenter de façon exponentielle. Donc, on a un problème d'investissement parce que au Québec, le monde pense que les entrepreneurs, les ingénieurs, que ce soit du ministère ou des firmes, ont pas les compétences nécessaires. C'est pas vrai. On a des gens compétents, on a des produits compétents. Après, faut investir de l'argent. Puis plus on attend, comme n'importe quel bobo qu'on peut avoir sur une infrastructure, plus on attend, plus le coût de réparation vient important, parce que plus le dommage existant va grandir, puis souvent de façon exponentielle.
Est-ce que la recette d'asphalte est différente ici qu'en Ontario? Est-ce que le grenat, c'est le même? On prend notre grenat aux mêmes endroits que l'Ontario?
En vrai, c'est les cailloux, parce que dans l'enrobé bitumineux, dans l'asphalte, là, ouais. Si on veut, là, pour parler en termes que tout le monde comprend, dans l'asphalte, il y a deux choses. Il y a à peu près 95% de cailloux, de sable et de granulats, qu'on appelle. Puis ça vient des carrières au Québec. Puis on a au Québec des carrières de qualité, donc on a des cailloux de qualité. Puis le bitume qu'on utilise, c'est un bitume qui est produit dans les raffineries canadiennes ou américaines, mais la majorité du bitume qu'on utilise va être produit au Canada, modifié au Canada. Donc, que ce soit en Ontario ou au Québec, on a des bitumes, je vous dirais, qui ont les mêmes propriétés, les exigences du ministère des Transports puis de la mobilité durable ont des exigences qui sont souvent plus élevées qu'ailleurs. Donc, on a un produit de qualité.
Okay. Mais donc vous me confirmez que c'est à peu près la même recette. Ça ne doit pas goûter pareil, là, c'est meilleur au Québec. Mais on a à peu près la même recette partout au Canada pour ce qui est de l'asphalte. Est-ce que l'asphalte, quand on l'applique sur nos routes, c'est normé? Est-ce que les normes sont respectées à 100% au Québec, ou on a l'impression des fois que sur les chantiers, ça va peut-être un peu trop vite, ou l'asphalte est coulé à une température qui n'est peut-être pas adéquate parce qu'il y a eu du retard sur le chantier, mais même si on sait que la température n'est pas adéquate, on la met pareil? Parce que moi, c'est souvent ce que j'entends, là. Mes sources d'information viennent souvent des chambres d'hockey, puis les gars sur les chantiers me disent que des fois, on coule l'asphalte, puis elle n'est plus à bonne température, mais on la coule pareil parce qu'on ne veut pas se faire taper sur les doigts. Puis le responsable de chantier, ben, il est forcé un peu de signer parce que lui, il veut pas se faire taper sur les doigts. Les façons d'appliquer l'asphalte, est-ce qu'ils sont respectés selon vous?
Selon moi, oui. Il y a des surveillants chantiers, il y a des contrôles. Exemple, aux usines, il y a ce qu'on appelle des bavards, ça enregistre les températures de production, puis ça, le ministère demande, fait un contrôle là-dessus. Donc, les clients sont capables de vérifier ce qui est fait par les entrepreneurs. Il y a des surveillants chantiers, puis les entrepreneurs aussi, ils veulent faire des produits de qualité. Tu sais, on est tous fiers de notre travail, puis je pense que la plupart des gens, les entrepreneurs, sont de bonne foi, puis ils veulent faire des travaux de qualité. Par contre, quand on vient faire des travaux, tu sais, il y a beaucoup de travaux qui, des fois, on se questionne, est-ce qu'on fait la bonne intervention à la bonne place au bon moment? Ça, on peut se questionner. Puis je pense que c'est plus là que le bas blesse. Puis la problématique, ben, c'est souvent que manque d'argent. Puis on comprend qu'il manque d'argent, il y a un manque dans la santé, il manque d'argent pour l'éducation. Donc,
mais vous me dites
les gouvernements doivent faire des choix, des fois qui sont déchirants.
Mais M. Lefebvre, donc, vous me dites que c'est normé, puis on a les mêmes normes qu'au Canada. On a-tu des aussi bonnes normes qu'aux États-Unis aussi?
Oui, tout à fait, tout à fait. On a, comme je disais, on a des produits qui sont très performants. Après, on peut parler des conditions climatiques qui rentrent un peu en ligne de compte, oui, mais c'est pas ça qui fait la différence. Après, c'est
entièrement
vraiment
d'accord.
Le nombre de kilomètres qu'il y a au Québec est beaucoup plus important. Le nombre d'habitants est moins important que, exemple, l'Ontario. Donc, on a peut-être moins de dollars. Il y a une chose de sûr. Puis ça, il y a un économiste qui était venu à un congrès de Bitume Québec, qui nous avait fait puis la conclusion de son exposé, c'était le manque d'investissement. Vous avez votre maison, vous ne mettez pas d'argent, ça fait 25 ans que vous avez votre maison, puis votre voisin, là, lui, il met de l'argent toutes les années, whoop, il y a une petite fissure sur le solage, il fait venir le gars, il répare sa fissure, sa toiture, il l'a refait faire, ça fait 5-6 ans, lui, il fait ça d'avance. C'est quelqu'un qui va bien entretenir son infrastructure, l'infrastructure va être performante. Ouais. Au Québec, le problème, c'est qu'on n'investit pas assez.
Ouais. Le fait qu'au Québec, c'est toujours le plus bas soumissionnaire qui remporte, est-ce que c'est une problématique selon vous, M. Lefebvre?
Ben, c'est sûr que c'est une question de prix. Les gens, tous les entrepreneurs soumissionnent avec les mêmes conditions, donc on va toujours au moins cher. C'est probablement pas la meilleure méthode. Il y a une chose de sûre, c'est que c'est pas une méthode qui va favoriser l'innovation, parce que quand tu veux innover, ben faut que tu ailles un peu de marge de manœuvre, que tu ailles avec des produits qui sont plus performants. Donc, ça peut avoir une influence, là.
Est-ce que les contrats qui sont octroyés par le ministère, est-ce que c'est rapide, les contrats, quand ils sont octroyés, ou on constate qu'il y a des légers retards dans les dernières années?
Ben, je dirais que le niveau d'activité est moindre. Cette année, c'est une année qui est vraiment pour nos membres, là, les différents entrepreneurs en pavage au Québec, c'est une année... on le sait comment les routes ont besoin d'amour, puis cette année, je peux vous dire que c'est catastrophique. Nos entrepreneurs ont pas beaucoup d'ouvrages. Pour les ouvriers du domaine de la construction, c'est une catastrophe. Là, il y a du monde qui n'ont pas été rappelés cette année ou du monde qui le sont rappelés, mais qui travaillent une couple de jours semaine. C'est vraiment... Puis Dieu sait si on a besoin de donner de l'amour à nos routes puis de travailler sur les routes, mais c'est une question de budget. Les soumissions, on en a eu par rapport à la programmation qui avait été donnée cette année, qui n'était pas une programmation exceptionnelle, mais on se disait, bon, on va avoir un certain niveau d'activité. Mais par rapport à la programmation, il y a plein de projets qui sont reportés à l'année prochaine. On est même à ce temps-ci de l'année, puis là, ça fait peut-être un 3-4 semaines là, qu'on a commencé à soumissionner pour des contrats pour l'année prochaine. À ce temps-ci de l'année, c'est un peu du jamais vu, là. Donc, c'est pas cette année qu'on va commencer à rattraper le déficit de maintien d'actifs au Québec sur les routes, ça, je peux vous le garantir. C'est vraiment triste pour l'industrie, puis triste surtout pour les travailleurs, puis les travailleurs de la construction de routes, c'est du monde qui ont des... C'est des spécialités, hein, c'est des gens qui ont des compétences, mais nous autres, ce qui nous inquiète dans l'industrie, c'est de voir cette main-d'œuvre-là. Il y a du monde qui dit ben moi, je suis tanné, j'ai pas assez d'ouvrage, j'ai été sur le chômage cet hiver, ou je fais des petits jobs en hiver en attendant de travailler l'été, puis l'été, on n'a pas assez d'ouvrage. Les gens, ben, je m'en vais dans une autre industrie.
Mais je m'excuse de poser cette question-là. On dit souvent quand l'économie roule pas, vous verrez si vous pouvez répondre, mais on dit souvent quand l'économie ne roule pas, il faut partir des projets de construction. Il faut partir des reconstructions de viaducs, de ponts, des routes, décider ça. Est-ce que... Puis là, c'est peut-être mon côté complotiste qui prend le bord parce que Yannick m'amène à le développer. Mais est-ce qu'on a une mauvaise qualité de bitume ou encore une mauvaise façon de faire les choses sur nos routes parce que ça amène du travail à nos travailleurs? Y a-t-il une portion de ça?
Non. Comme je vous dis, le bitume, c'est produit selon des normes, des exigences du ministère, puis nos normes sont très, très exigeantes au Québec. Puis, mais le problème que vous dites, ce que vous avez dit en début de l'énoncé, quand vous dites normalement, quand l'économie va pas bien, la meilleure façon de ça, c'est éprouver, puis si vous présentez comme premier ministre, je vais voter pour vous parce que ce que vous dites là, c'est vraiment, vraiment intéressant. La construction, investir dans les infrastructures, c'est un moteur économique incroyable. Puis il faut savoir aussi que, comme je disais, les cailloux, le bitume, tout est produit au Canada avec l'histoire des tarifs. Stimuler l'économie avec la construction, ça a toujours été une bonne façon de sortir des périodes creuses de récession, de ralentissement économique. Puis on comprend pas que cette année, dans le contexte qu'on a, qu'il n'y ait pas plus d'activité. Puis en plus de stimuler l'économie, c'est qu'on vient pérenniser nos infrastructures qui ont drôlement besoin d'être pérennisées. Effectivement, ça serait la chose à faire, investir dans nos infrastructures, sécuriser notre force de travail, ouais. Pérenniser notre force de travail. Puis pour ce qui est des produits, je vous dis, on a ce qu'il faut. Un des choses qui est un peu différente au Québec par rapport aux routes, quand vous parliez des roulières en début d'entrevue, au Québec, il y a une chose qu'il va falloir que le gouvernement adresse, c'est les pneus à clous. Les pneus à clous, c'est très agressant pour les chaussées en enrobé, mais aussi en asphalte, mais aussi les chaussées de béton. On voit les nouvelles constructions en béton qui ont été faites là, entre autres à Québec. Puis on voit déjà des ornières qui apparaissent, des roulières, si on veut, tranquillement à cause des pneus.
C'est ça.
Mais
M. Lefebvre, on a toujours tendance à parler justement des fameux pneus à clous, là. Mais les pneus à clous, ça l'enlève l'asphalte, là. Ça la creuse pas. Puis quand on nous disait à l'époque que c'était la faute des camionneurs parce qu'il y avait des camions beaucoup trop lourds, bien quand on regarde les roulières, là, c'est vraiment des roulières de véhicules et non de petits véhicules et non de véhicules comme les camions. L'empattement est pas bon si tu regardes le camion par rapport à la roulière. Et c'est du matériel qui s'enfonce. Pour quelle raison le matériel s'enfonce? Est-ce que ce serait ce qui est en dessous de l'asphalte, la problématique? À certains endroits, des fois, on fait juste enlever le dessus d'asphalte, puis on remet au lieu de réparer, ben, on remet une couche d'asphalte dessus en disant ben, ça ne paraîtra pas pendant une couple de semaines.
Mais vous avez tout à fait raison. Tout à l'heure, j'avais commencé un peu à dire, quand je disais qu'il faut choisir la bonne intervention au bon moment, au bon endroit, ben de venir là, souvent on voit des contrats où est-ce que l'entrepreneur vient enlever peut-être 50 mm, là, 2 pouces d'enrobé avec une machine spéciale, une planeuse, là, il vient irriger la surface d'enrobé, puis après il vient le reposer deux pouces, 50 mm d'asphalte par-dessus. Quand on fait ça, à titre de maintenance préventive sur une structure de chaussée qui est en bon état, c'est bien. Mais quand on fait ça parce que l'enrobé est fissuré, qu'il y a des grosses ornières de structure, c'est-à-dire de manque de structure, donc la fondation est insuffisante, venir faire ça, on vient juste corriger, on vient mettre un plâtre sur un bobo, là, on corrige rien. On dépense de l'argent, mais juste pour bien paraître, là, puis ça dure quelques années, puis les fissures réapparaissent, les ornières réapparaissent, donc faut faire des bons choix, puis ça, étant donné qu'on n'a pas assez d'argent investi, souvent, on vient investir de cette façon-là, puis c'est pas... je tenais l'exemple que j'ai déjà eu dans ma carrière avant d'être, on va dire, chez Bitume Québec, j'ai déjà été chargé de projet, puis sur des contrats où est-ce qu'on faisait des interventions comme ça, au début de la saison. Des fois, avant l'hiver, on voyait déjà, quand on faisait l'inspection, des fissures qui réapparaissaient, parce que la structure de chaussée est insuffisante. Donc, on voyait des fissures réapparaître du type au même niveau qu'au début de la job, mais on voyait qu'il y avait... Donc, c'est sûr que ce type d'intervention-là ne durait pas une vingtaine d'années comme ça devrait durer 15 à 20 ans. Ça durait 5, 6, 7 ans, puis c'est à refaire. Fait qu'on fait souvent des mauvais choix, puis le problème des mauvais choix, c'est qu'il y a Il n'y a pas de budget dédié en tout cas, nous autres, on trouve qu'il devrait avoir un budget dédié récurrent à chaque année. puis qu'on puisse commencer à faire les travaux en début de saison. Donc, souvent, vous parliez de délai d'octroi de contrat. Ben, quand tu as des contrats qui sont en soumission au mois de mai, de juin, mais c'est sûr que tu peux pas partir les travaux avant que toute le côté administratif soit fait, que les réunions de chantier, la planification avant le mois d'août. Mais on travaille souvent aussi dans des conditions qui sont pas, on va dire, optimum, puis versus commencer des travaux au dégel, là, au début mai. Là, quand on peut faire ça, bien, c'est sûr qu'on est dans des conditions climatiques plus favorables. Puis, ça a un impact.
Ouais. Serge Lefebvre, président de Bitume Québec, vous allez dire que je suis le beau-frère le plus fatigant que vous avez eu votre vie, là, mais j'ai des questions à vous poser. est-ce que quand on fait affaire avec un entrepreneur pour paver, je sais pas moi, l'autoroute 20, un tronçon de l'autoroute 20, bon, on met de l'asphalte et tout ça, on travaille. Est-ce que ces gens-là sont responsables pendant quoi? Un an, deux ans, trois ans de ce tronçon-là? Ou une fois que la job est faite, il y a un inspecteur de Transport Québec, là, je parle de quelque chose que je connais pas, mais il y a un inspecteur qui vient voir, il dit « OK, c'est beau, c'est fait », puis l'entrepreneur n'est plus responsable de ce tronçon-là. Comment ça fonctionne, les garanties?
En général, quand les travaux sont terminés, si tout est conforme, donc l'argent est libéré de la part du ministère des Transports. Par contre, le ministère des Transports, si jamais il y a des tronçons qui ont une problématique, qui voient qu'il y a une problématique, ben ils sont capables de revenir contre les entrepreneurs. Ils vont reparler aux entrepreneurs. En général, c'est comme ça. Après, dans les municipalités ou dans les villes, chacune des villes ou municipalités ont leur règlement. Il va avoir des retenues de 5-10% sur les travaux qui sont faits. Donc, chacun a un peu sa façon de faire, mais avec ce ministère, vous n'avez pas tort de dire que normalement, à la fin des travaux, l'entrepreneur est payé si tout est conforme. Là, si l'entrepreneur a rencontré tout ce qu'il devait rencontrer, normalement, il est payé à 100%.
Parce que c'est pas rare de voir, M. Lefebvre, un tronçon qui a été fait et un an, deux ans, trois ans plus tard, on refait ce même dit tronçon-là. Je me dis tout le temps, mais est-ce qu'on repaye un autre entrepreneur pour faire la job? Puis, ou il y avait une garantie qui était là-dessus? Ce que vous me dites, mais ça conforte un peu ce que je pensais.
Parce que nous, on entend aussi des rumeurs par rapport à des compagnies de construction qui savent très bien qu'ils n'ont pas la meilleure qualité de matériaux lorsqu'ils travaillent puis qu'ils ne peuvent pas en sortir de ça. Moi, je me dis, des fois, il y a des travailleurs, si c'est le cas, qui doivent être fâchés. Tu sais, s'ils quittent en plus puis qui réussissent pas à faire comprendre au gouvernement que c'est pas ça qu'on devrait avoir sur nos routes, ça doit être épuisant à un moment ou à un autre, là.
C'est sûr que, comme je disais, de bien faire les choses la première fois puis de faire la bonne intervention, c'est mieux que juste venir faire des plasters puis revenir. Ouais. Après,
surtout, on en parle depuis plusieurs années, fait que je me dis à un moment donné, on va le quitter,
oui,
notre ex,
oui,
là?
Si. Effectivement, ça, on va souhaiter... un jour qui allait... Après, ça, je comprends bien aussi, puis les gens du ministère des Transports, eux autres, ils ont le budget qu'ils ont. Hein, c'est pas... je pense que les gens qui travaillent pour le ministère des Transports aimeraient beaucoup avoir plus d'argent disponible pour faire des contrats on va dire, de meilleure qualité, pas de meilleure qualité, mais des interventions qui sont plus adéquates que juste faire des fois du c'est normal, à un moment donné, tu veux, au niveau de la sécurité, que tu fasses des interventions, tu dises, ben on fait une intervention sur ce tronçon-là parce que c'est dangereux, on n'a pas assez d'argent pour réparer le tronçon de façon systématique, puis s'assurer de bien faire les choses, mais on fait quelque chose de plus temporaire, puis on va y arriver avec des budgets dans 4-5 ans. Puis, parce que, tu sais, faut être capable de gérer l'ensemble du réseau, mais le problème, c'est que présentement, comme je vous expliquais, le DMA, le déficit de maintien d'actifs, il augmente. Donc, les zones où est-ce qu'il faut faire des interventions plus costaudes augmente. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est que ça coûte plus cher, on n'a pas plus de budget, donc les choix vont être déchirants. Puis ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va faire encore plus souvent des plasters, de mettre des pansements pour au lieu de faire une réparation adéquate, parce qu'on va avoir de la misère à gérer l'ensemble du réseau. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un coup de barre qui soit donné, puis qu'on commence à rattraper, puis qu'on ramène l'ensemble du réseau à un niveau plus adéquat, plus acceptable pour tout le monde, parce que ça reste que le réseau routier, c'est quand même un peu la colonne vertébrale de l'économie du Québec. Tout ce qui est produit au Québec, les travailleurs doivent circuler sur les chaussées, les biens qu'on produit sont transportés sur nos routes, puis les camionneurs, vous en parliez, les camionneurs, mais c'est sûr que quelqu'un qui a une flotte de camions qui se promène au Québec, qui travaille au Québec versus travailler dans un endroit où les routes sont plus adéquates, le coût de la gestion de sa flotte de camions est beaucoup moindre parce qu'il y a moins de réparations à faire sur ses équipements. Là. Ça,
exact.
C'est clair.
Exact. Monsieur Lefebvre, ça a été un plaisir. Vous êtes le président de Bitume Québec. Vous avez répondu à toutes nos questions. Donc, si on en a d'autres dans quelques semaines, quelques mois, on trouvera le moyen de vous achaler encore.
Ben, ça va me faire plaisir.
Merci, M. Lefebvre.
Bon été à vous et à vos auditeurs.
Au revoir. Ben. Puis M. Lefebvre est quand même chanceux parce que là, on s'en va dans une année électorale. Pascal. Mm-hmm. Ce qui fait en sorte que, d'habitude, dans une année électorale, le gouvernement qui veut se faire réélire, il veut se faire des amis. Fait qu'il y aura probablement de l'argent qui va apparaître de nulle part dans les prochains mois. Au ministère québécois des Transports, ce qu'on dit sur le plan québécois des infrastructures 2025-2035, on prévoit 35,9 milliards de dollars sur les routes, donc 84% de cet argent-là qui est prévu pour le maintien du parc. On dit qu'une révision et une priorisation des projets du ministère qui ont été effectués. Parmi les critères de priorisation, la sécurité, l'entretien des infrastructures, la réduction de la congestion et leurs incidences sur la collectivité, leur capacité à répondre aux défis liés au changement climatique ainsi que l'état d'avancement d'un projet majeur. Ça vient d'un porte-parole du ministère des Transports, M. Louis-André Bertrand. Mais ça n'explique pas à quel point, à la grandeur du Québec, je dis à la grandeur du Québec, j'ai pas été partout, là, mais du moins, Québec, Drummondville, Trois-Rivières, Montréal, nos infrastructures sont pas en super de bon état. Il y a des nids de poules partout, il y a des roulières, il y a des endroits où il manque carrément des galettes d'asphalte, puis ça manque d'entretien. À un moment donné, il faut que le gouvernement veille au grain, parce que la sécurité peut être en jeu. Là.
Oui, puis je me demande aussi à quel point on est conscient des finances. T'sais, à tout le temps recommencer, c'est des sommes de plus. Là. Quand ça te coûte une méchante pochette d'argent, année après année, à refaire la même chose, ça se posait des questions. Pourquoi est-ce qu'au niveau finances, on ne décide pas d'investir plus?
Midi 26, on fait une courte pause. Après la pause, le candidat du Parti québécois dans la circonscription d'Arthabasca-l'Érable, Alex Boissonneau, sera des nôtres.
Marceau, le